Épilogue. Les adieux.
Le lendemain, j'ai insisté pour pouvoir assister à l'enterrement des copains. On nous trouva deux fauteuils roulants et Cyril et Jeanne acceptèrent, malgré la douleur, que Bastien soit là aussi. Simon ne vint pas. Le docteur Gillot, qui avait fait la guerre d'Algérie, pas encore tout bib, avait diagnostiqué chez lui un syndrome de stress post-traumatique. Simon avait revécu, dans la casemate D, les mêmes peurs, les mêmes scènes que sur le continent. Son esprit avait répondu comme il avait pu, par la crise aiguë, puis par le retrait. On le maintenait dans un état limite de la conscience, pour l'heure. Il faisait une cure de sommeil. Tant qu'il y aurait des somnifères, et sur l'île comme partout, beaucoup de gens en stockaient, on les doserait parcimonieusement et ils dormiraient. Sans cauchemar, espérait-on. Dans la vieille église des martyrs, il y eut tout le bourg, encore une fois. Sauf Jacques, qui en serait devenu fou. Cette fois, ce ne fut pas Jacqueline qui mena la cérémonie. Ce fut Patricia et Caro, ensemble. Elles avaient fréquenté toutes les deux la messe, autrefois, l'une avant son divorce, l'autre avant la mort de son mari. Et Caro emmenait encore parfois Blanchette prier. C'est pour ça que mon amie y parlait, aux morts, à quelqu'un, à Dieu. Là, elles avaient tenu à le faire ensemble. La mère de Maxence et celle de son assassin. Cyril et Jeanne, Eva et Julia, assis au premier rang, se taisaient. Au cimetière, on ne creusa pas de nouvelles fosses. Les deux familles avaient chacune leur caveau. On y déposa les deux copains. Celui qu'on avait sacrifié, celui qui s'était sacrifié. Les martyrs, je savais que Blanchette y pensait. Mes roues trop larges et l'étroitesse des allées entre les tombes ne me permirent pas de m'approcher. Dans mon fauteuil, je regardais Luna aller jeter deux fleurs dans chaque fosse, une pour elle, une pour moi. En regardant ma sœur, je songeais que l'île restait la même, un endroit où on savait se regrouper pour vivre ensemble l'essentiel, la survie et la mort, les naissances et les deuils, les repas et la mer. Mais notre monde à nous, les 6, les 8, la bande, avait changé. Il y a 2 mois, Luna était princesse et garçon manqué au centre d'une bande d'admirateurs et de copains. Maintenant, elle était seule. Un d'entre nous était parti sur le continent et peut-être, sûrement, était-il mort à cette heure parce que la famille de Michael, je ne l'imaginais pas douée pour la survie en territoire hostile. 2 d'entre nous étaient dans la tombe. 1 autre était devenu fou. Il ne restait qu'elle et moi, orphelins. Et Bastien sur une jambe, avec le poids d'un homicide. Et Blanchette. Blanchette qui avait fait un pas en avant, qui commença de chanter. C'était un chant très pur, très haut, dans une langue que je ne connaissais pas. Peut-être de l'allemand, du malais, peut-être encore autre chose qui venait de son monde intérieur. Un chant dans une langue inexprimable qui disait l'indicible, le repos des morts, la douleur des vivants, le lien qui nous unirait à eux, puis leur visage s'effacerait. Nous les oublions, déjà. Au-dessus de nous, un couple d'aigrettes garzettes passa de son vol d'échassier et sembla nous regarder. Des oiseaux chantaient. Derrière la batterie de Triton, on entendait le sac et le ressac de la mer qui s'abattaient en vagues lourdes sur le sable. La marée montait.
Fin du monde.
Ce matin, on a vu 3 hélicoptères. Les premiers. C'est fin juillet, presque août. On les a vus et on les a entendus. Depuis quelques jours, presque une semaine, on savait. On avait aperçu les traînées blanches dans le ciel, très haut, et on avait compris que quelque chose allait reprendre. Le trafic aérien, dans le ciel, c'est le signe d'un retour à la normalité. Le signe qu'il y a des aéroports sécurisés, de nouveau. Militaires, civils, des pilotes capables de piloter, des aiguilleurs dans une tour de contrôle quelque part, des passagers. Ce matin, les trois gros appareils militaires ont survolé la côte, assez loin, du côté de La Rochelle, dans un bourdonnement de pales. Sans doute pour évaluer les dégâts, l'état des zones à sécuriser, peut-être pour larguer des troupes. Ça avait le bruit de la guerre. Avant, on aurait été surexcités, nous, la bande. On se serait précipités au rempart et ensuite, on aurait commenté des heures, on aurait joué aux petits soldats. Là, j'ai éprouvé une angoisse sourde. Sans doute vont-ils reprendre le contrôle du territoire petit à petit. Peut-être que nous aurons des nouvelles, ce soir ou demain. Un hélico ou un bateau viendra, sûrement bientôt. Quand on a vu les sillages d'avions, il y a 5 jours, Cyril a proposé au dîner du soir qu'on installe une banderole sur la pelouse de l'esplanade du sémaphore, pour les hélicos, et une autre accrochée sur les remparts au-dessus du port. Ça dit « Nous sommes vivants, pas de rage ici, tout va bien ». Il a proposé aussi qu'on rallume le phare. C'est le nouveau maire. Le conseil l'a choisi à l'unanimité. Il a perdu un fils. Et il essaye de pardonner. Mais toutes les décisions continuent de se prendre à main levée. Nos jardins partagés ont commencé de donner. Leur profusion est incroyable, buissonnière. On y travaille d'arrache-pied, le matin et dès que la chaleur retombe. Eric a appris à faire un fromage très acceptable. Nous n'avons abattu qu'une des 6 vaches, les autres ont des prénoms. Et je crois que le spectacle de la mort de leur consœur nous a suffi pour longtemps. On mange enfin autre chose que des conserves et le fruit de nos coyettes sauvages. Des concombres, des radis, des salades, des tomates. Bastien est resté en liberté, malgré son acte. Cyril et le conseil l'ont entendu, nous ont fait témoigner, tous les trois. L'ont condamné à des travaux d'intérêt général. Homicide involontaire par imprudence, a dit Élise, la fille de Gilles, qui faisait du droit à Bordeaux. Les habitants s'amusent de ces TIG parce qu'ils ne changent rien, au fond. Bastien avait déjà commencé de travailler pour Lille, avant, de toute façon. Mais il s'adonne désormais aux travaux de cantonnier et de mécanique avec une application à réparer les choses, une rage presque, qui est peut-être aussi une expiation. Il s'est rasé le crâne, aux premières chaleurs. Ça lui donne l'air d'un jeune bagnard. Parfois, je vais me promener avec lui. Je suis tombée sur lui, ce midi, juste avant le repas. Il était torse nu, en sueur, en train de dégager un fossé le long de la route de Lens, bouché par les derniers orages. Il se redressait en me voyant arriver sur mon vélo. Je me suis arrêtée, j'ai mis la béquille, je suis allée lui chercher sa bouteille d'eau et sa canne. Il s'est essuyé le visage, le crâne veiné par l'effort, a craché, bu. Tu as vu les hélicos ? A-t-il demandé. Ouais. T'en penses quoi ?
Je sais pas. Je crois que j'aurais préféré continuer entre nous.
Il a eu un geste vague de la main.
Avant tout ça, quand j'allais sur le continent, j'étais con.
Il a souri. J'ai souri.
D'ailleurs, ta sœur, elle m'en veut toujours. Pour Julia.
J'attendais la question. Il me la pose souvent. Tu sais, elles passent leur journée ensemble avec Eva. Ça arrange pas tes affaires.
Ouais, je comprends.
Bon, on va déjeuner au réfectoire ? On s'est mis en route. Moi en poussant mon vélo. Lui appuyé sur sa canne.
T'as peur, toi, Poléon ? De ce qui va se passer après,
quand des gens vont revenir sur l'île ?
Non.
Enfin, si, un peu. Mais j'ai appris que ça nous rendait dingues. Alors j'essaye de pas... J'avais parlé comme Hugo, sans finir ma phrase. Il a hoché la tête,
s'est appuyé sur sa canne. On s'est arrêté, on a regardé le continent. Il n'y avait plus de fumée pour l'instant. Plus de grenades artisanales, plus d'assaillants ni de sièges, de communautés retranchées. J'ai grimacé parce que ma cicatrice me tirait l'aine. Nous ressemblions à des anciens combattants. Mais ce n'était pas une guerre. Nous l'avions cru. Mais ce n'en était pas une. On n'a pas encore jugé les autres. Gilles et André continuent de dormir dans la maison médicale, sans garde mais à l'isolement. Ils travaillent dans la journée, mangent avec nous, mais ne prennent pas part au vote. Cyril, avant-hier, a dit que lorsqu'il y aurait des nouvelles, on déciderait de ce qu'on fait d'eux. À quelle justice on les remet ? Celle du continent ou celle de l'île ? Et ils ont hoché la tête. Élise habite seule, du coup, dans la maison de son père, comme nous le faisons dans la nôtre, à cause de Gilles. C'est dur de leur pardonner, à lui et à André. Mais parfois, je me dis que nous avons été comme eux, que notre colère a été aussi dangereuse et mortelle que la leur. On a laissé la bande s'effilocher, se diviser, se battre, s'entretuer. On en avait exclu certains. On avait laissé d'autres faire les cons. Je ne parle pas que de Maxence ou de Simon, de Bastien, ceux qui ont tué. Moi, dans la casemate, j'étais prêt à sacrifier ma sœur pour vivre plus longtemps. Et pourtant, j'aurais pu aussi buter Simon ou Bastien pour la défendre. Qu'est-ce que j'en fais de ça ? Qu'est-ce qu'on en fera, tous ? Si ceux qui viennent dans quelques jours veulent nous dire comment vivre, qui éviter, qui sont les responsables, les coupables, s'ils veulent nous diviser, qu'est-ce qu'on fera ? S'ils reprennent les jardins, emmènent nos prisonniers, nomment un maire, décident pour nous. Parfois, je croise Simon, il sort très peu. Il vit, mange et dort chez Caro. On ne l'a pas placé dans la maison médicale avec les deux autres meurtriers, parce que le docteur Gillot et Élise ont estimé qu'il était irresponsable, probablement, au moment de son crime. Qu'un psychiatre en déciderait quand ce serait possible. Irresponsable. Sans doute. Et pourtant, on l'a vu faire. Quand je le rencontre, seul et morne, je vois dans ses yeux un vague alarme et une détresse qui m'effraie. Blanchette croit qu'il repartira, un jour, sans prévenir, sans combi et sans palme. Qu'il plongera dans le Pertuis, une nuit, nagera vers la côte ou vers le large, et qu'on n'entendra plus parler de lui.
Sauf si Camille revient,
dit-elle depuis 4 jours, depuis qu'on a vu les traîner dans le ciel. On ne peut rien contre l'espoir. On ne s'en débarrasse pas. Nous, à la maison, on n'a personne à attendre. On se contente de vivre, d'apprendre à vivre et à construire. Et ça nous occupe assez de temps. Tout le temps presque, au moins celui que je ne passe pas avec Blanche et Georges. Luna fait tourner la boutique, comme elle dit. Moi, je grogne, je désobéis, je maugrais, je tire au flanc parfois. Mais je travaille. Cyril a proposé qu'en dépit de son âge, ma sœur entre au conseil. Pour l'heure, elle a refusé, mais je crois que ça viendra. Je ne sais pas ce qu'elle pense du retour d'autres gens sur l'île. L'appréhende-t-elle ? Et ce qui s'est passé cette nuit-là, l'a-t-elle digéré ? Nous en avons parlé, on s'est demandé pardon. Mais ça n'est pas la question. Certaines choses étaient impardonnables, des choses que nous avons vues, d'autres que nous avons commises. Alors la question, c'est de savoir comment nous pourrons nous en garder la prochaine fois. Être comme papa et Françoise, intègre, mais sans mourir. Un peu de distance s'est installée entre elle et moi. Ce n'est pas à cause de la nuit du fort elle, je crois, mais elle passe désormais son temps avec Eva, Julia, avec qui elle travaille au champ, au parc de Gérard, et également à d'autres tâches moins physiques. Et elle s'échappe aussi avec Élise, parfois, chez qui elle se retrouve le soir. Elle n'a plus le même rire. Il est sans amertume, mais il se brise souvent. Et quand il ne s'ébrèche pas, ne se suspend pas, quand elle rit de bon cœur, ses yeux essayent de regarder l'avenir avec confiance. Elle ne se contente plus du moment d'insouciance présent. Mes gamineries l'exaspèrent. Elle fait preuve d'indulgence. Cette indulgence-là, c'est, je crois, la marque la plus grande de cette distance qui nous sépare. C'est juste qu'elle a grandi d'un coup ces derniers mois. Et que moi, au contraire, je m'attarde en enfance. Par fidélité à Hugo et pour attendre Blanche. Blanche, je la vois tous les jours. Nous passons 2 ou 3 heures avec Georges. C'est lui qui l'a proposé et je crois qu'au fond, ça l'arrange bien. Il échappe ainsi aux travaux physiques qu'il apprécie peu. Il les considère comme une hygiène, une séance de sport intéressante, mais il ne faut pas qu'il dure trop et devienne avilissant. Notre compagnie justifie ses promenades. Il nous garde très peu dans la bibliothèque, juste le temps de choisir 1 ou 2 ouvrages. Et puis nous sortons pour herboriser, parcourir les sentiers, qu'il pleuve, vente, qu'il fasse beau. Nous choisissons le bon endroit pour lire, dehors. J'ai constaté qu'il évite les chemins qui mènent au fort L. Nous lisons, observons, cueillons. Georges dit que c'est ainsi qu'il faut utiliser les livres. Pas pour apprendre la vérité, chercher à y comprendre ce que nous vivons. L'endroit que nous habitons, les événements. Mais pour apprendre à regarder. Ça et tout le reste, le vaste monde.
C'était ton erreur, Blanchette, de vouloir trouver dans des livres une explication à ce qui se passait sur le continent. Une erreur d'adulte. Et tous tes amis t'ont cru parce que tu es la plus savante. Alors nous passons nos heures avec lui à retourner des pierres, examinons des mollusques, apprenons le langage des vagues et du vent. Nous errons dans les ruines, les fortifications, les anciens ouvrages de l'île. Nous nous récitons des histoires et leur envisageons des suites. Au début, j'avais l'impression de me distraire et que ce n'était pas bien. Mais on ne peut pas passer sa vie à pleurer. Je me demande si les oies bernaches partiront l'an prochain, comme elles le faisaient avant, à chaque printemps. J'espère que non, elles sont bien chez nous. Mais peut-être se sentent-elles confinées avec nous? Peut-être vont-elles repartir? On n'en sait rien, Jolan. Personne ne peut le dire. Les livres ne donnent jamais d'explication. Ils nous enseignent simplement comment et où mieux regarder. Georges est trop bavard ces temps-ci, et un peu professoral. J'avoue que parfois, il m'agace. Il y a 5 jours, quand j'ai vu les traîner dans le ciel, il arrivait devant chez nous pour nous faire la classe. On l'a planté là, avec Blanchette. Je ne l'embarque plus sur mon porte-bagages parce que ça tire trop sur la hanche. Mais on a sauté sur nos vélos et filé jusqu'au bourg. Les habitants regardaient le ciel comme ils avaient regardé les fumées, mi-mars. 4 mois et demi plus tôt, le jour des événements. On a écouté les conversations, on s'y est mêlé. Caro est arrivée presque en courant depuis la maison familiale. Elle a aperçu sa fille, elles se sont embrassées. Caro l'a fait tourner dans ses bras comme pour une fête et elles se sont confiées des secrets dans l'oreille, mère et fille. Blanchette a ri, battue des mains. Elle pensait à Camille, j'en suis sûre. D'autres commentaient, soulagés ou inquiets. Moi, je ne savais pas quoi dire. Certains ont commencé d'émettre, à voix haute, l'idée que peut-être ce qui viendrait serait dangereux. Cyril et JP ont dit que non, que la rage ne permet pas de piloter des avions. Mais il n'y a pas que la rage, ai-je pensé. Ensuite, Blanche m'a entraînée à l'écart et m'a regardée, les yeux brillants. J'ai une mauvaise nouvelle pour Léon.
nous ne nous marierons pas. Tu te souviens de ce que je t'avais dit ?
Et sans m'y attendre, sans savoir que j'avais pris nos fiançailles au sérieux, j'ai éprouvé brutalement une détresse réelle, profonde. Tu avais décidé ça avant, ai-je objecté, avant la casemate.
Et alors ?
A-t-elle minaudé. J'ai haussé les épaules. Je ne plaisantais pas, moi. Elle l'a vu.
Bon,
a-t-elle dit.
Je vais encore y réfléchir. Je te dirai.
Je m'appelle Jolan. Dit Joe. Dit Poléon, parfois. J'ai 14 ans maintenant. Je vis sur l'Inda. C'est un bel endroit, un endroit merveilleux, que j'aime. Un caillou de presque 2 km², 119 hectares de vases, de sable et 2 châteaux calcaires, un à chaque bout. 5 km de long sur 700 mètres au plus large, fortifié, une île forteresse presque, en forme de croissant allongé au large de Rochefort, à 4 km de la côte. 132 habitants, désormais. Insulaires, têtus, dont 2 prisonniers, un meurtrier irresponsable et un bagnard, et 12 morts de plus au cimetière. Un endroit couvert de jardins, labouré, cultivé, plein de gens que j'aime et qui se sont battus courageusement ces derniers mois, qui auraient pu se suffire à lui-même pour toujours. Peut-être aurais-je préféré. J'ai peur, en fait, ce midi. Mais il ne faut pas. Tout à l'heure, j'irai dans l'anse des coquilles, avec Blanche, comme hier, comme tous les soirs. Nous regarderons le fort aîné et la pointe de la fumée, le continent. Nous reparlerons de la moque. Que s'est-il passé là-bas ? Nous finirons par le découvrir, par bribes, imparfaitement. Demain, dans quelques jours, nous en apprendrons plus. Les premiers qui arriveront, s'ils viennent en sauveur, nous donneront des explications. Peut-être nous balanceront-ils des mots techniques, scientifiques, mais ça n'épuisera pas les questions. Ça ne dira pas grand-chose. Ni de la moque, ni du reste. Comme ici, des gens ont tué là-bas par colère, par peur, pour se défendre, pour en finir. S'en remettent-ils ? Ensuite, les estivants viendront, ceux qui ont survécu à la moque. Ils voudront reprendre leur maison, leur jardin. Et il faudra leur dire que plus rien ne sera comme avant. Que se passera-t-il ? Dans 2 semaines, dans 1 mois, nous prendrons peut-être un bateau, nous aussi, dans l'autre sens. Pour nous rendre un peu mieux compte. Le témoignage des survivants du continent n'éclairera rien, ou très peu. On pourra juste les écouter, hocher la tête, et écouter le plus attentivement possible. Hier soir, Blanchette m'a dit
« En fait, dire que c'était la moque, c'était juste donner un nom. »
J'ai hoché la tête.
« C'est comme la maladie de Simon. » Syndrome de stress post-traumatique. Je sais de quoi il souffre, mais ça n'explique rien. Je ne sais pas les images qui lui reviennent. Je ne partage pas ses cauchemars. Je ne comprends pas pourquoi il a fait ça. Je ne sais pas ce que c'est sa vie maintenant.
Non.
Et peut-être qu'une chose est justement nouvelle, parce qu'elle n'a pas encore de nom. Qu'il ne faut pas trop se presser de lui en donner un. Qu'il faut d'abord la considérer.
Une fois de plus, elle avait raison. Elle avait tout compris. Ce qui arrivera, demain, quand nous sortirons de notre isolement, nous ne le savons pas encore. Si nous y survivons, on essayera de ne pas trop se presser pour le nommer, le classer, l'expliquer, nous autres. Pour l'instant, ça n'a qu'un vague nom. Entre nous, on dit simplement « après ».